Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de Dans la boîte à gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que.
Mais tu m'as raconté sur cette période un truc assez amusant, parce que j'aime bien aussi le côté coulisses du Dakar, chose peut-être qui n'existe plus, c'est qu'à l'époque, vous aviez une petite besace avec laquelle vous vous baladez, parce qu'en fait, il fallait des fois payer l'essence, les radios n'étaient pas forcément toujours... bien fait,
ouais. Alors, dès la première année, j'ai été surpris parce que je me rappelle tous les pilotes qui étaient sur la piste, ça soit les pilotes officiels de qui pilotaient les motos, mais aussi les 4x4 d'assistance rapide, les camions, tout le monde avait une enveloppe avec pas mal d'argent, ce qui représenterait aujourd'hui, je dirais, je sais pas moi, 15 000 euros.
Donc, en cash.
En liquide. Bah oui, parce que.
forcément.
Au fin fond de l'Afrique.
C'est sûr.
Bon, c'était le franc CFA à l'époque, hein, mais ils acceptaient les francs français, ils acceptaient bien. Et en fait, au début, je n'avais pas trop compris pourquoi. Il me dit, écoute, si tu viens à tomber en panne au fin fond du désert, peut-être qu'il y aura un pick-up local qui peut te ramener ta moto au bivouac ou peut-être qu'il peut te dépanner de quelques litres d'essence, mais dans le désert, ça se monnaie très, très cher. J'ai dit, Donc, on avait une petite banane avec... petite sacoche avec pas mal d'argent dedans. Et effectivement, moi, ça m'a servi une fois pour acheter de l'essence à prix d'or. À prix d'or.
C'était quoi prix d'or, justement?
Je me rappelle plus parce que c'est des francs, mais alors, premièrement, on est arrivé normalement, les étapes, elles étaient très longues et il y avait des ravitaillements organisés par l'organisateur au milieu d'une étape de 600 km. Au bout de 400 km, on était censé tomber sur un camion de l'organisation qui nous redonnait de l'essence. Et là, on arrive au kilomètre 400, par exemple, et le camion d'organisation, pas là. Je dis, là, il y a eu un problème, le camion a eu une panne, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut continuer, la course doit continuer. Donc, on continue jusqu'à... On sait qu'on a encore une autonomie de 50 km, mais on ne va pas aller bien loin. Et là, on tombe sur un village. Et on s'arrête dans le village et on cherche de l'essence dans le village. Et là, les locaux, les Touaregs, ils connaissent l'histoire. Il dit, on a un fût de 200 litres, mais si vous en voulez, ça va vous coûter très cher. Et là, je crois qu'on prend 10 litres, on est avec Gaston Raillé, Cyril Neveu, et on achète 10 litres ou 15 litres chacun, mais on doit les payer l'équivalent d'aujourd'hui 1000 euros, quelque chose comme ça.
Ouais, hein, prix, 1000 euros.
Oui, l'équivalent aujourd'hui, à l'époque, c'était peut-être 2000 francs, peut-être 2000 francs français. Mais donc, on paye quelques litres à prix d'or. Et grâce à ça, on arrive à rejoindre le bivouac à 17h ou à 18h quand tous les autres concurrents passent la nuit dans le désert parce qu'il y avait de l'essence, il n'y en avait pas pour tout le monde. Donc, c'est sûr, l'étape du lendemain est annulée, mais au moins, nous, ça nous a permis de rentrer le soir, d'avoir une nuit calme au bivouac plutôt de dormir dans le désert. Et voilà, c'était pour ça, l'argent cash, c'était pour pouvoir se sortir de situations qui n'étaient pas vraiment attendues en fait.
Après 3 victoires, est-ce que tu commences à avoir le record de Cyril Neveu, donc 5 victoires en ligne de mire? Tu commences à te dire c'est un objectif?
Ouais, je crois que 3, tu te dis je suis encore en pleine possession de mes moyens, je me sens bien, je maîtrise entre guillemets mon sujet, même si c'est des fois pas toujours maîtrisé à 100%, mais
ça
en tout cas.
Ça peut changer en 2 secondes, ouais.
C'est ça, la moindre erreur de ta part, mais la moindre erreur aussi d'un mécanicien qui oublie de serrer un boulon ou n'importe quoi, ou ton assistance qui est pas là au moment où tu en as besoin, ça peut mal tourner. Donc, je maîtrise le sujet et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me dis, ouais, ça doit être possible au moins d'égaler et de continuer encore quelques années. Sauf que le règlement change, en fait, parce que les organisateurs ou la Fédération internationale moto décident que les prototypes sont interdits. C'est-à-dire que pour pouvoir s'engager au Dakar, il faut que maintenant les motos soient produites à un certain nombre et que des clients puissent les acheter. Et donc, c'est pour ça qu'en 1994, Yamaha ne s'engage pas au Dakar parce qu'on n'a pas le temps de se retourner par rapport à ce nouveau règlement. Nos motos d'usine, nos prototypes sont interdites et donc il faut trouver une solution pour les années d'après. 1994, pas de Dakar avec Yamaha.
Tu te souviens de cette période justement, Vincent?
Je me souviens, alors là Stéphane est en train de me rafraîchir la mémoire, je me souvenais pas ça, parce que je me souviens surtout, parce que pour y avoir participé à un tout petit niveau et avoir aidé, je me souviens l'année d'après donc, quand Yamaha lance la production de 15 machines, puisque la fameuse production qui est nécessaire c'est 15, Et donc, ils vont lancer pour la première fois la production de 15 motos bicylindres et 15 motos monocylindres. C'est l'année où Jacques Lafitte, Christian Sarron vont tous Philippe Alliot, ils vont partir avec toute une bande de copains faire le Dakar en monocylindre. Et puis, bah, il y a les pilotes pros qui, eux, vont partir avec les bicylindres. Et je me souviens d'être descendu. Alors là, quand je parlais d'animation tout à l'heure, quand il s'agit d'aligner 15 bicylindres et 15 monocylindres, là, l'atelier était trop petit.
C'est ça. C'est ça.
Là, cette année-là, l'atelier était beaucoup trop petit. Ouais.
Mais bon, il y a eu, enfin, je sais pas s'il y a eu du bon et du mauvais sur cette réglementation. Parce qu'en fait, sur les 15 motos produites, je crois on avait fait deux ou trois quelques-unes en plus pour les pilotes officiels. Et les autres, effectivement, elles ont été vendues à des clients. Et je pense qu'il y avait à peu près une bonne dizaine, voire 12 motos vendues à des clients qui sont partis sur le Dakar 95, donc. Et sur les 12 ou 13 motos qui sont parties, il n'y en a eu aucune qui sont arrivées à l'arrivée à Dakar. Et pas sur des problèmes techniques, tous sur des problèmes de chute. C'est-à-dire que on avait des motos qui étaient des avions de chasse, des motos qui étaient faites pour des pilotes professionnels. Elles étaient lourdes, elles étaient puissantes, elles allaient vite. Mais tous les amateurs qui ont voulu rouler avec ces motos, la première année, il n'y en a aucun qui est arrivé. Parce qu'ils sont tous fait mal, la moto était trop lourde, ils ont pas réussi à exploiter. C'est comme si demain, moi, on me met dans une Formule 1, je sais pas m'en servir. Ben eux, c'était un peu pareil. C'était la moto, c'était la Formule 1 du désert, la Yam bicylindre qu'on avait. Et ces amateurs n'ont pas été capables de s'en sortir. Donc, bien ou pas bien, cette réglementation, pour moi, il y en a pas mal qui se sont blessés. Et c'était pas forcément une bonne idée.
Pour plus de contenu exclusif sur les coulisses du podcast, suivez-nous sur Instagram @dansla-boîte-à-gants. Vous retrouverez aussi la version filmée de vos épisodes préférés sur YouTube.